Robert Pilote.
Midi 7 minutes, bonjour et bienvenue. Lundi, midi plus. Julie Boulay est là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Si vous en avez, vous faites des commentaires, vous êtes les bienvenus. Julie m'a dressé toute une liste de sujets à commenter aujourd'hui, une vraie grosse liste.
Mais le pire, c'est que c'est pas ça. Un matin, je dis de quoi on va parler, puis j'appelle. Robert m'appelle toujours, comme à tous les jours, où je viens commenter, où je viens placoter avec lui. Et là, c'est lui qui avait une liste interminable, je dirais, de sujets. Alors, ça nous prendrait tout l'après-midi, Robert.
Là, je me suis arrêté quand même. Mais bon, il y avait quoi? Bon, la maternelle 4 ans, ça,
oui,
c'est très bon.
Tout à fait.
C'est un beau sujet, ça.
Oui.
Après ça, il y avait quoi? Bon, SNC.
Oui.
La ministre de la Justice qui a été dégommée.
Là, il y a le Sénat qui se pose la question là, à savoir s'il pourrait intervenir et demander à ces gens-là de venir comme une commission d'enquête, mais menée par le Sénat.
Bon, après ça, bon, l'histoire des voyages. Quand tu voyages à l'étranger, là, qui c'est qui a la responsabilité de te ramener si t'es dans le trouble? Vision zéro, on a parlé un peu. Il y avait ABI, les toitures, le déneigement, les TDAH.
Il y avait la jeune fille qui s'est convertie à l'État islamique.
Qui veut
demander de retourner chez elle, là, comme si rien s'était passé entre-temps.
Ayez pitié de moi. Elle a eu 3 enfants, deux qui sont morts. Et puis là, elle a un enfant maintenant, puis elle est dans un camp de réfugiés.
C'est ça.
Et puis elle veut que l'Angleterre
la
ramène chez elle. Alors, bon, voulez-vous des sujets? Puis il y a même du monde au téléphone qui veulent parler, poser des questions.
Oui.
Je te dis.
Il y a Marc-André qui veut lire les nouvelles aussi.
Non, il ne lira pas tout de suite. Ben non, tantôt, j'ai dit, parce que Julie Boulay était à ta
place. Je me suis trompée, j'ai changé de siège trop rapidement, Marc-André.
Pas de problème, tant que vous ne touchez pas à mes boutons,
non,
tout va bien.
J'ai pas touché à rien, j'ai pas touché à rien.
Madame Boulay, si vous demeurez là...
Arrête avec ton Madame Boulay, là, Robert, c'est Julie.
Madame Boulay, si vous restez là, vous demeurez là, allez lire les nouvelles de Marc-André. J'ai pas de trouble que ça, moi.
Hein? Ça y est, c'est
y a
des
pas
scabs,
de saut.
Ça, non?
Non, mais ce que je t'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de saut métier. Ça prend un gars comme Marc-André, ce qui fait il le fait très bien.
Parce que c'est la livraison, ce n'est qu'une partie du travail.
Oui, tout à fait, derrière
colliger,
tout ça.
Il faut colliger les nouvelles. Il faut faire des entrevues serrées. Il faut écouter aussi, avoir le sens de la nouvelle.
Hein?
On va-tu au téléphone?
Oui.
Carl, bonjour Carl.
Oui, allô.
Bonjour Carl.
Bonjour. Oui, moi j'avais une question concernant le feu vert clignotant pour les pompiers volontaires au Québec.
Oh mon Dieu.
Là, on sait que, bon, on est encore dans le projet de pilote et qui a été reporté encore jusqu'au mois d'août. Suite à ça, bon, j'imagine là, qu'il va y avoir des évaluations, des tables de concertation, des comités, de sous-comités et tout ça. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour la suite des choses? Est-ce que ça risque de se faire quand même relativement rapidement? On sait que le feu vert là, peut sauver des vies, là, peut donner un coup de main aux pompiers volontaires à arriver beaucoup plus rapidement. Et qu'est-ce qui nous différencie du reste du Canada où c'est déjà adopté, puis même dans certaines provinces, c'est même un feu rouge qui a été mis en place là.
Alors, Carl, ben, écoute, là, je suis plus ministre des Transports, mais si on peut donner des précisions aux auditeurs, c'est que on sait que quand les ambulances, les policiers circulent, ils ont une cerise sur le top,
oui,
puis la cerise a crié, puis
les
gyrophares. Alors, ce que les pompiers volontaires demandaient à l'époque, et c'est de là qu'est parti le projet pilote, c'est quand ils ont à se déplacer sur le lieu d'un incendie, étant donné qu'ils sont tout seuls dans leur véhicule, puis s'il y a rien qui les identifie, les gens les laissent pas passer nécessairement pour qu'ils aillent plus rapidement. La police, à la limite, peut les arrêter puis leur donner une étiquette, alors qu'ils s'en vont éteindre un feu, ils s'en vont dans une situation d'urgence. Alors, ils avaient demandé, et ça existe ailleurs, comme Carl le dit, ils avaient demandé de pouvoir mettre sur le dessus de leur véhicule une cerise verte, OK? Alors, qui fait un peu le même principe que la cerise qu'on retrouve, la rouge, mais qu'elle est verte, qu'elle identifie que ce sont des personnes qui sont au service public et qui s'en viennent... Ils s'en viennent en situation d'urgence, éteindre un feu. Alors, pour qu'on puisse les identifier, éviter que c'est... Et ça a été pénible. Il y a un projet pilote qui a été mis en place, comme Carl dit. Et Carl, je sais pas c'est rendu où. Je suis même étonnée parce que ça fait un certain nombre de mois ou d'années que ça dure, le projet pilote. Je suis étonnée que ça peut aboutir à quelque chose de plus concret. Moi, j'étais vraiment, vraiment d'accord avec cette initiative-là. Mais il y avait... des complications, pas des complications, mais il y avait des partenaires qui étaient pas d'accord avec le fait qu'on, c'était comme un précédent qu'on créait, puis on se disait, il y en a d'autres qui vont nous en demander ce genre d'initiative-là. Mais moi, sincèrement, je pense que c'était tout à fait approprié. Et comme tu le dis, Carl, dans les autres provinces, ça se fait déjà. Alors moi, je dirais go, allons de l'avant avec cette initiative-là, parce qu'assurément, c'est au profit des citoyens, c'est un service public indispensable.
Hey, merci, c'était pertinent comme question. À bientôt.
Merci à vous.
Bye bye. Voilà, mais tiens, je savais pas pantoute.
Oui, c'est ça, on connaît pas ça, mais c'est très intéressant. Tout à fait.
Marc-André?
Ben, il est question des bâtiments dont les structures, les toitures n'ont pas été délingées, qui pourraient présenter des signes qui pourraient faire craindre un effondrement, comme ça a été le cas à la bâtisse de Kenny Youpoul en fin de semaine à Trois-Rivières. Également, l'ancien garage municipal du secteur Grand-Mère hier du côté de Shawinigan. Selon l'administrateur de l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, André Côté, c'est un hiver exceptionnel qu'on connaît, comme en 2008 d'ailleurs. Il ajoute qu'il faut notamment écouter les signes que les maisons envoient.
Si en ce moment, vous avez des signes précurseurs, des fissures, des portes coincent, il faut réagir immédiatement. Il pourrait avoir également une fenêtre qui casse, il pourrait avoir des fenêtres qui sont dures à ouvrir, même les fenêtres extérieures, même la porte extérieure de la maison. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que soyez à l'écoute de votre bâtiment.
Puisqu'on parle de la neige et du temps qu'on connaît, la sécurité civile demande aux gens qui possèdent des cabanes sur le fleuve près de Saint-Angèle de Laval de bien vouloir les déménager ou encore de ne pas en installer de nouvelles. C'est qu'une importante fissure qui s'est créée à cette hauteur et les autorités craignent que des cabanes partent à la dérive carrément et qui s'en suivent évidemment toutes sortes de conséquences. Un aéroglisseur doit venir en milieu de semaine pour s'occuper de la fissure et son travail serait évidemment facilité par l'absence ou, disons, le fait que les cabanes n'entraveraient pas la surface.
OK. Quand tu dis un aéroglisseur vient s'occuper de la fissure, viendront pas arroser pour la réparer? Non, mais ils font quoi? Ils montent sur la glace pour dégager le morceau de glace, probablement.
C'est ce que je comprends, effectivement.
Pour qu'il s'en aille.
Oui.
Non, mais sur là où se trouve la glace, il y a des cabanes dessus.
Oui.
Ah, c'est pour ça. On demande aux gens... Tassez vos cabanes de là.
C'est ça.
Nous autres, on va dégager la glace.
Voilà. Ou n'en installez pas de nouvelles, évidemment. Donc, à la hauteur de Saint-Angèle-de-Laval, si vous avez une cabane dans ce secteur-là, véritablement, sur le fleuve, vous ne pouvez pas la manquer, la fissure, semble-t-il. Là. Donc, on vous invite à la prudence, bien sûr, mais on vous demande également de soit tasser vos cabanes ou de ne pas en installer de nouvelles.
C'est assez... particulier comme expérience, dérivé comme ça sur le fleuve Saint-Laurent, à côté de ta cabane.
Disons que, à Québec.
Disons que c'est pas trop sécurisant, là. Juste d'entendre parler, moi, ça me donne des frissons.
Déjà, savoir qu'une fissure.
L'eau, là, quand
Déjà, savoir qu'une fissure.
Oui, c'est ça. C'est inquiétant. Puis on voudrait pas se retrouver dans des situations périlleuses, là, sur le fleuve à cette époque-ci de l'année, là.
Non! T'imagines, mais là, tu dérives tranquillement
sur
le fleuve.
Non, y a rien de drôle, Robert.
Là, il y a un navire. Un Panamax, une grosse patente, un gros, gros bateau qui arrive. Puis toi, tu t'en vas avec ta petite cabane.
Comme Huckleberry Finn.
Hein, comment?
Comme Huckleberry Finn.
Je sais pas, c'est quoi?
Ben, c'est un gars qui vivait sur l'eau, là, avec son chien de mémoire.
Oui.
Puis il y avait un radeau, puis il avait installé une espèce de petite maison là-dessus, là. Puis écoute,
là, tu rentres,
ça remonte à loin, là.
Mais il devait pas avoir 5-6 pieds de glace ou 20 pieds de glace, là, j'imagine, dans
non,
ce
pas tout
film-là.
Le temps.
En pleine nuit, là, tout seul, là, quelque part sur le lac Saint-Pierre, en te baladant tranquillement, pas vite, ça doit être bien plate. Ça doit pas être le fun partout.
Surtout si t'approches de Montréal en sortant de ta cabane.
ailleurs, dans l'actualité.
Ben, c'est ça. On va revenir sur les consultations de Vision Zéro dont tu as parlé dans les dernières minutes, notamment avec Marie-Annick Mercure, parce que c'était la première journée de consultation en fin de semaine. La deuxième va avoir lieu le 23 février, donc samedi qui vient. Il y a de nombreux citoyens, il y a à peu près 200 qui se sont rendus au centre des Ormeaux dans le secteur Cap-la-Madeleine pour exprimer leur opinion. Et justement, chaque citoyen avait une solution pour améliorer la sécurité sur les rues trifluviennes.
Essayez avec le douceur, conscientiser le public, prendre nos responsabilités de bien conduire.
Qu'est-ce que ça fait, le 40 km/h? Ça va conscientiser les gens à réduire.
Il ne faut pas oublier aussi que c'est important d'assurer une fluidité de la circulation sur certaines affaires.
C'est important présentement que la ville fasse un statement plus clair sur ce qu'elle pense.
D'être moins sentence bonbon vers les délinquants récidivistes.
Quand ça fait deux fois, vous avez une contravention, que vous dépensez les choses, obligez la personne
d'aller prendre le cours.
Les élèves de l'école secondaire Le Boisé de Victoriaville qui étaient coincés en Haïti en raison des troubles politiques sont revenus au pays hier. Leur accompagnateur, Roch Tourigny, a rencontré les médias ce matin. Il a expliqué que la décision de se rendre en Haïti avait été basée sur les recommandations de l'ambassade canadienne à Port-au-Prince. Et il y a un manque d'expérience récente en vol aux instruments, en particulier la nuit, qui est montré du doigt pour expliquer l'écrasement d'un hélicoptère qui a fait 3 morts près de Drummondville le soir du 1er février 2018. Dans son rapport, le Bureau de la sécurité des transports croit que le pilote a fort probablement fait face à de piètres conditions météo qui ont nui à ses références visuelles avec le sol. Il aurait par la suite perdu la maîtrise de l'hélicoptère en raison d'une désorientation spatiale. Le pilote Jean-Claude Mayotte, qui était un homme d'affaires de Lanaudière, a perdu la vie dans cet écrasement, de même que sa fille Janie Mayotte et son amie Nathalie Desrosiers.
Hey Serge, breaking news, une nouvelle dans le domaine du sport.
Ben écoute, selon TVA Sport, la journaliste spécialisée en boxe, Nancy Audess, serait réglée pour le deuxième affrontement entre Dylan Carman et Simon Keane. Ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle, mais la date serait le 15 juin prochain à Shawinigan. On sait que ce sera le premier combat le 16 mars prochain, parce que Keane va remonter dans le ring le 16 mars prochain pour la première fois depuis justement la défaite qu'il a subie contre Dylan Carman le 6 octobre dernier.
J'ai hâte, oui. C'est fun. Es-tu amateur?
Non, pas trop. Là, pas moi, trop? Non, se taper dessus, là, Robert, là, puis faire des commotions cérébrales, là, j'ai un peu de difficulté avec ce sport-là. C'est... Oui, puis écoute, chez moi, là, mes enfants, mes frères, c'est toute une gang de fans, là, mais moi, j'ai toujours trouvé ça un peu d'une incohérence. Là, les gens se tapent dessus, là, tu comprends-tu, là, les gens se donnent des coups de poing, là, avec...
Le but, ils se tapent dessus. C'est de blesser quelqu'un pour qu'il perde connaissance. Le but du jeu, c'est ça, là.
Oui, mais tu te rends-tu compte de ce que tu me dis? Là,
le but, c'est ça, pareil. C'est
oui,
ça.
Oui, mais
le but, c'est
à un moment
d'assommer
donné,
quelqu'un.
C'est de la violence, pareil. Là. C'est de la violence, puis ça peut avoir des conséquences.
Mais il y a quelque chose d'ironique quand même là-dedans. Effectivement, je partage votre avis là-dessus.
Oui, non, mais on me souffle à l'oreille. Me souffle à l'oreille. On me dit, et pourtant, la politique, c'est un sport de contact.
Oui, effectivement. On se tape dessus, mais d'une autre façon, Robert.
Oui, où tous les coups sont permis.
Tous les coups sont permis.
Et des fois,
c'est très vicieux.
Et
en bas de la ceinture, tout à fait.
Fait que je vous dirai pas qui me soufflait à l'oreille.
Moi, j'ai vu, par exemple, qu'il soufflait à l'oreille.
Tu parles de Stéphane G. Plutôt S-Gas de
Non, c'est ça. Mais c'est pas Serge Allary. OK. As-tu d'autres choses à me dire?
Ben, que tu es le bienvenu pour te rendre au FM 106.9.ca. Tu choisis la section Actualité et tu peux pas te tromper. Là se retrouve tout ce que tu as à savoir pour ta belle Mauricie, ton beau centre du Québec, mais également le reste de l'humanité.
Le monde entier. Merci, Marc-André. Il est midi 20 minutes.
Qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Robert Pilote.
Alors oui, effectivement, de la boxe à Shawinigan, j'applaudis, moi j'aime bien ça, là. En autant que ce soit bien fait, bien pratiqué, ça peut être un sport très, très sécuritaire. Le problème, c'est qu'une fois de temps en temps, et tu sais, c'est pas mieux la course automobile, Julie. Tu sais, la course automobile, j'ai déjà vu aller voir des courses d'auto. Bon, tu peux te faire très, très mal si tu perds le contrôle, puis
tu rentres
dans le
mur. C'est ce qu'on appelle des sports extrêmes, là, Robert. J'ai pas dit que j'étais pour tous les autres sports extrêmes.
Tu sais, puis
on a
hockey,
qu'à penser à Dennis Stevenson, les conseils de son dernier combat.
C'était grave.
On est en réhabilitation. On ne sait pas comment il va revenir. Est-ce que c'est un père de famille? Des fois, ça a des conséquences, mais il y a des adeptes à ça, je comprends.
Michael Schumacher, l'un des plus grands champions de Formule 1 de la planète, s'est jamais fait mal en conduisant sa voiture, banalement.
Il est mort dans un accident sur un bateau.
Il n'est pas mort, mais là, il n'est pas fort. Okay. Il est tombé en ski.
En ski.
Il est tombé en ski, il s'est pété à gueule, puis bon, comprends-tu?
Il y en avait un pilote d'auto là, qui était mort en bateau à l'époque, là, je ne me rappelle plus son nom, là, mais il me semble bien que ça me dit quelque chose, ça.
En bateau, Serge pourrait peut-être nous le dire, mais je ne me souviens pas. Effectivement, donc, ça arrive à quelques reprises que des gens pratiquent des sports extrêmes, mais banalement vont se blesser ou vont se faire mal dans une activité de la vie courante.
Mais c'est parce qu'ils ne font rien de façon modérée, Robert. Quand ils font d'autres choses, ils le font avec autant d'intensité.
Oui, ils ont peut-être la moins la compétence.
Des fois, là, ils sont un peu audacieux quand ils font une pratique d'autres sports également.
Bon, je vais parler de la maternelle à 4 ans, mais oui. Il rentre. Fait que, justement, on va parler.
Je me serais plus renseignée là, pour vous faire des débats sur ces sujets-là, voilà. Les gars.
Mais il faut toujours bien que ça serve à quelque chose, ces cheveux gris-là. Je comprends que Robert, pour toi, les cheveux, c'est une chose du passé. Mais
ils sont gris une fois de temps en temps. Là, je les coupe pas souvent, mais quand j'en ai, je les mets de côté pour le montrer que j'en ai également. Mais alors, j'aurais aimé savoir à quoi j'aurais pu ressembler si j'avais vu des cheveux gris.
Ben, même avec des cheveux, d'après moi, tu ressemblerais pas à Stéphane. Là, je veux pas te rien t'enlever, là, Robert. Là.
T'as beau essayer, mais... Robert, de toutes les manières, tu n'y arriveras pas. Cesse de t'accrocher à ce rêve insensé. Bonjour Julie, comment ça va?
Bonjour Stéphane, ça va bien. Ça va bien.
Alors, je pense que vous référiez, Julie, où tu référais, parce que je vous demandais de la tutoyer, puis j'y arrive difficilement.
Oui, c'est comme ça.
Tu réfères au mari de Caroline de Monaco, qui était un pilote de course automobile.
C'est ça.
Et qui faisait aussi de la course de bateau. Et il s'était tué un accident de bateau, des espèces de bateaux hyper rapides.
Oui, les tapettes, là, un peu, là, qui vont très vite.
Ça, faut pas dire ça en nombre, hein.
C'est comme ça qu'on les appelle, ces bateaux-là, là, tu sais, qui flottent sur le dessus de l'eau.
Les bateaux cigares, là.
En tout cas, là, qui font
les régates, speedboats.
Les régates, c'est ça, là.
Je pense que tu parles de la régate étant la course. Mais le bateau, c'est la cigarette. Le cigarette boat.
OK.
Qui a probablement une appellation française qui nous revient pas, ni à vous, ni à moi. Mais c'est de cette manière-là que s'était tué de manière assez spectaculaire.
Oui, c'est ça. Je me rappelle qu'il y en a un qui s'était tué en bateau.
Exactement. Alors, c'était celui-là. Voilà.
Veux-tu participer à un de nos échanges?
Non.
Il y en a quelques-uns. Non, mais tantôt... Je peux-tu faire une entrevue serrée? Tu sais, quand tu dis...
Je vais t'aider Robert. Je vais
parfait.
T'aider.
Sortons du garde-robe, puisqu'il faut sortir. Celui qui soufflait dans mon oreille tantôt, c'est Stéphane Gasse, qui dit, hey, là, la politique, la boxe, c'est de la petite bière, à côté de la politique, qui est un sport extrême.
Mais Julie, t'as sans doute connu la mairesse Boucher.
Oui,
à l'époque.
Oui, tout à fait. Bon,
Madame Boucher, avec qui j'ai fait de la radio pendant un petit bout de temps, lorsqu'il y a eu la fusion municipale.
Oui, oui, oui.
Maudit qu'elle a eu PQ à cause de ça. Puis elle était tellement contente de voir le Parti libéral arriver au pouvoir qu'il avait promis la défusion municipale, qui était une bébête à 42 têtes, là.
Ben, en fait, il devait y avoir des économies, puis ça s'est pas avéré ça en bout de ligne, là. Ça coûte plus cher, puis c'est des grosses patates.
C'est de la faute au PQ?
Ben, disons que ça, c'était pas une de leurs meilleures, Robert. Si tu veux mon opinion, il y a des endroits, c'est quand même pas encore harmonieux.
Zéro puis une barre. Et la mairesse était tellement furieuse de ça parce qu'elle perdait sa ville.
Oui, elle perdait son bus. Sa mairie, là, sa mairie.
Tout à fait. Puis une ville, la ville de Sainte-Foy, qui allait plutôt bien. Bref, c'est elle qui disait ça. Elle disait que la politique, c'était un sport de contact dont tous les coups sont permis, surtout ceux en bas de la ceinture.
C'est peut-être pour ça que le monde aime moins ça. Peut-être pour ça que les gens dénigrent les politiciens, qu'ils les comparent à des vendeurs de chars usagés. C'est pour ça que les gens votent de moins en moins aujourd'hui. Et pour toutes ces bonnes raisons-là.
Et pourtant, Robert, quand il en arrive de nouveau, on s'étonne de voir qu'ils arrivent avec un style différent. Prenez l'exemple de Catherine Dorion, qui arrive à l'Assemblée nationale avec un langage différent, avec une manière de... C'est loin d'être une niaiseuse, là. Catherine Dorion est une femme plutôt brillante qui a un regard sur la politique qui est très différent de celui auquel on est habitué.
Puis très représentative de sa génération aussi.
Elle a amené...
Très représentative, elle change l'image traditionnelle des politiciens qu'on rencontre à l'Assemblée nationale.
C'est vrai.
Ça, c'est un plus pour elle.
Elle a amené des jeunes, elle a intéressé des jeunes à la politique, tranche de vie, Julie et Robert. J'ai un de mes enfants qui votait pour la première fois de sa vie au provincial cette fois-ci.
Okay.
Et qui est dans le comté de Taschereau, le comté de Madame Dorion, puis c'est devenu son héroïne. C'est elle qui l'a amené à s'intéresser à la politique parce que ni les libéraux, ni les péquistes, ni les caquistes avaient réussi à le faire jusqu'à maintenant. Elle a un langage différent, elle a une manière de s'exprimer qui est différente, puis un regard sur la politique qui est différent, un peu iconoclaste.
Puis elle défend des dossiers qu'on traditionnellement personne fait des batailles pour ça. Elle y croit avec ses tripes, avec ses principes, elle les porte haut. Est fort, même si c'est pas sexy ou populaire, là. Elle le fait par conviction profonde.
Ce que, par exemple, comment il s'appelle, Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas réussi à faire, parce que c'est un jeune vieux Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un jeune vieux. Comment il s'appelle, Catherine?
Ben, c'est un politicien dans l'armée. En fait, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie.
Il a pas le choix.
Alors, lui, il joue le rôle, la ligne de parti, puis il faut.
Il a pas le choix.
Alors que Catherine ne fait pas ça. Non, Catherine est restée authentique. Elle est restée vraie.
Exact. Et elle n'avait rien à perdre.
T'as raison qu'elle avait rien
L'autre,
à perdre.
Le jeune vieux dont vous parlez, lui, doit mettre au monde un parti politique qui va faire élire un maximum de députés. Il a pas le choix de jouer la même partie que les autres.
Mais t'as raison, mais Catherine, elle va se démarquer, puis c'est elle qui va peut-être aller plus loin que l'autre. Ouais. Parce que justement, elle a une attitude qui est différente, qui est rafraîchissante, et qui amène une génération qui n'ont jamais cru, qui n'ont jamais été là pour soutenir la politique québécoise. Et là, ils disent, ben, enfin, quelqu'un qui parle d'environnement, qui parle de culture, qui parle de sujets qui va définir notre société de demain. Alors là-dessus, elle va aller plus loin que lui, moi.
Et qui le dit, Julie. Je suis très content d'entendre ça. Je trouve que c'est un regard très rafraîchissant que tu portes. Mais, et qui le dit, Catherine Dorion, sans faire de compromis et sans se travestir, sans changer qui elle est et comment elle porte son message. Ce qui l'a amenée là où elle est, c'est son authenticité et elle a décidé de la conserver.
Elle va enlever sa tuque, mais elle va rester ce qu'elle est.
Dans votre temps, donc, la politique, c'était comme de la boxe. Quel genre de sport de combat au temps de Catherine Dorion maintenant? C'est du sumo? C'est quoi? On est-tu dans l'escrime?
C'est les arts martiaux mixtes,
oui,
j'ai l'impression.
Oui, probablement que c'est ça.
C'est un peu plus tendance.
Salut, Stéphane Gasse. Et là, il faut s'arrêter. On a tellement de choses à se dire.
On a 22
sujets, puis il va falloir passer au travers. C'est le mandat que je vous donne, Mme Boulay. Tout de suite après la pause, je sais que ça te fait réagir quand je dis Mme Boulay, mais c'est juste pour jamais dire la même affaire.
Parce que je me sens comme si j'avais... c'est comme si j'avais 20 ans de plus, Robert.
Moi, si
alors,
tu dis monsieur...
Je ne suis pas pressée de...
Moi, dis monsieur.
Parce que si tu m'appelles Mme Boulay, m'a appelé M. Pilote.
Oui,
okay, ça va-tu?
Moi, j'aime ça, M. Pilote.
T'aimes ça, M. Pilote?
Ben, oui.
Tu trouves pas que ça fait plus bonhomme, là?
Non, pas en tout.
Non?
Puis à chaque fois qu'on faisait des entrevues à l'époque, tu commençais toujours comme ça. Bonjour, M. Pilote.
Non, mais là,
bonjour tout le monde.
J'étais obligée, là, d'être...
Non, t'étais pas obligée. T'aurais pu dire, bonjour, Robert.
Il y avait un protocole que je me faisais un devoir de suivre.
Madame, maintenant, oublie le protocole parce qu'elle est à midi. On fait une courte pause et comme je le dis, on va vous parler tout de suite après la pause, entre autres d'SNC-Lavalin.
Et des maternelles.
Les maternelles à 4 ans. Un jour ou l'autre, peut-être la maternelle à 1 an et demi. Qui sait? Mais la maternelle au bedon. Peut-être aussi que les femmes vont se retrouver à l'école avec l'enceinte de leur enfant. Détail après la pause.
Le Québec, maintenant.
Un bilan de la tempête, le premier ministre du Québec disait que, dans les circonstances, on s'en était bien tiré.
Absolument, et le ministre des Transports dit la même chose aussi. Alors, je pense qu'il y a un consensus. Avoir moins d'usagers sur la route ce matin a sûrement permis une grande différence qui a permis d'éviter pire, en effet.
Le Québec! Le Québec maintenant, avec Paul Hood. En semaine, 15h, au 106.9, Mauricie.
Le Québec maintenant!
Hey, Nissan! Je suis déjà tanné de pelleter mon entrée.
J'ai ce qu'il vous faut.
Une souffleuse?
Non, un Nissan Rogue S avec siège chauffant en location à partir de $59 par semaine.
Ça vient-tu avec une souffleuse?
Non, mais ça vient avec la traction intégrale intelligente pour seulement $9 de plus par semaine.
OK, fait que j'ai pas besoin de souffleuse.
Non. L'équivalent de $258 par mois pour 60 mois, sur approbation de crédit, $3,395 en comptant initial, valeur au détail de $28,208 jusqu'au 28 février, détail chez Nissan.
En février, c'est la fête de l'amour.
Et nous, en février, chez Ticoc, on file cochon.
Goûtez notre nouveau bacon. Vous allez adorer nos club sandwich. Du bacon plus épais et plus délicieux que jamais.
En février, c'est cochon chez Ticoc.
Mahindra, le numéro 1 au monde, bien établi au Québec. Le seul tracteur assez robuste pour vos hivers. Assemblé au Québec avec la meilleure garantie de l'industrie. Mahindra, le tracteur de chez nous. Disponible à vos centres agricoles Berthierville, Saint-Maurice et Nicolet.
Peu importe l'heure de la journée,
jour férié et fin de semaine,
vous pouvez compter sur TaxiCoop Trois-Rivières.
Avec nos chauffeurs formés, obtenez pleine satisfaction en vous laissant conduire rapidement, en toute sécurité, à votre destination.
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un seul numéro.
378-54-44.
TaxiCoop, c'est aussi plusieurs services.
Déverrouillage, survoltage et transport longue distance.
Embarquez avec TaxiCoop Trois-Rivières. C'est la tranquillité d'esprit. Un seul numéro.
378-5444.
Quoi de neuf dans la région? Venez le découvrir durant la grande tournée des Maisons Neuves les 23 et 24 février. 40 nouveaux projets résidentiels de qualité réalisés par des entrepreneurs de chez nous. Pour planifier votre tournée, visitez grandetournée.com.
Les mardis soirs à Vallée-du-Parc, ça sent la testostérone. Messieurs, c'est votre soirée de gaillard. Du ski à rabais pour la soirée, de la bière de microbrasserie et de la bouffe d'homme. Donne rendez-vous à tes chums mardi soir. C'est à Vallée-du-Parc que ça se passe.
À la salle de bingo au 503, on fait des heureux. Une activité stimulante dans une ambiance unique et on peut gagner gros. 1000, 5000, 10 000 $ et même plus. Tous les rêves sont permis. Pour gagner, il faut d'abord jouer. Salle de bingo au 503 boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières.
Profitez d'un rabais jusqu'à 9000 $ pour un camion GMC chez Lessard Buick Chevrolet GMC. Notre engagement, vous faire la meilleure offre pour un produit GM et sur votre échange.
Lessard Buick Chevrolet GMC. Chez nous, c'est les gens avant tout.
Boulevard Royal, Shawinigan.
Si vous avez le temps, nous avons la bière. La Miller High Life est un véritable classique qui ne se démode jamais. Procurez-vous un emballage de 12 canettes qui vous offre une excellente valeur. La Miller High Life, le champagne des bières.
Une vue d'ensemble de l'actualité. Jusqu'à 14 heures, vous écoutez Midi Plus. Midi Plus. Voici Robert Pilote.
Midi et demi, vous prenez le lunch. Bon appétit. Et nous autres, on est là pour vous accompagner. Tous les lundis et les jeudis. Moi, je suis là toute la semaine, mais Julie Boulay vient faire un tour le lundi et le jeudi pour discuter actualité. On va commencer avec les maternelles 4
oui,
ans.
Oui, oui, tout à fait.
Est-ce que le projet est né, d'abord, oui, d'une promesse électorale, mais né d'une nécessité au Québec d'envoyer les enfants à maternelle, à l'école, à 4 ans? T'as-tu, toi qui étais dans le gouvernement, est-ce que ça se discutait, ça, que les enfants, pour changer la société, pour faire une société meilleure, pour mieux outiller nos enfants, fallait les envoyer à maternelle à 4 ans?
Ben, Robert, nous autres, c'était pas sur la planche à dessin, là. C'était pas dans les projets, c'était pas dans nos priorités, c'était pas quelque chose qu'on envisageait de faire. Ceci dit, la CAQ, elle l'a promis en campagne électorale, puis je tiens à le rappeler, là, il y avait un sondage dans le Gazette cette semaine, puis les gens, ça disait le sondage que la très, très, très grande majorité des Québécois ont voté pour la CAQ pour un changement. Très peu ont voté pour eux, pour leur programme. Alors, ceci dit, c'était une promesse personnelle de M. Legault qui est basée sur le fait qu'en Ontario puis dans les autres provinces, il y a des maternelles 4 ans et le taux de diplomation au secondaire des jeunes est de beaucoup supérieur à ce qu'on connaît au Québec. Malgré que nous, on a les CPE, eux n'en ont pas. Alors nous, quand on dit ben, les CPE qu'on pense font la même chose, ils détectent les problèmes. Alors, mais notre taux de diplomation est resté relativement bas. On est les derniers au Canada, alors que l'Ontario est les troisièmes en matière de diplomation pour ces jeunes au niveau secondaire. Fait que c'est né de ça. Moi, Robert, je vois deux problèmes, ben, même je dirais trois. Premièrement, évidemment, il y a les locaux. Hein, parce que là, on dit 250 nouvelles classes pour l'automne qui s'en vient. On promet d'en faire 5 000, hein, qu'on a dit à terme dans 5 ans. Bon, alors les locaux, évidemment, en région, c'est plus facile. On a des écoles qui se sont vidées au cours des dernières années. Alors, des classes disponibles, ça, c'est pas un problème dans nos régions. À Montréal, c'est le problème. Mais à la limite, tu dis, ben, des locaux, on met de l'argent, puis on construit, puis on peut réaménager une école, puis ça se fait physiquement avec de l'argent. Là où est le défi de M. Roberge puis de M. Legault, c'est évidemment au niveau des ressources humaines. On en met 250 nouvelles à l'automne, ça veut dire il parle d'un professeur plus d'un éducateur qui va être là en mi-temps pour soutenir, pour accompagner le professeur. Donc, on parle de 500 personnes, soit des enseignants, des éducateurs, des techniciens, peu importe. Mais tu sais, Robert, là, on est en pénurie de main-d'œuvre dans le réseau scolaire.
Oui,
puis des professeurs, là, ça se trouve pas d'une boîte de Cracker Jack, là. Ça se trouve pas au dépanneur, ça se trouve pas sur le coin de la rue, là. C'est pas comme ça, là. C'est des longues études, il y a des cohortes qui sortent une fois par année. Alors, comment il va faire pour trouver les gens? Parce que là, il parle d'un professeur puis d'un éducateur pour minimum 6 enfants, Robert. Alors, on va avoir 2 adultes spécialisés, formés, avec des diplômes pour s'occuper, minimum 6 enfants. Comprends-tu, là, que c'est des petites classes, ça, là, hein, 6 personnes. Et là où est l'autre défi de M. Legault, Oui, là où est l'autre défi, bien évidemment, il est après se mettre à dos tous les partenaires de cette réforme-là, ses collaborateurs, qui sont évidemment les CPE. Puis moi, je peux te dire, Robert, que j'ai vu des ministres se battre contre le corporatisme des CPE et ils ont eu... C'est vraiment une gang qui a beaucoup d'influence au Québec. Alors, ils ont à se battre contre les CPE, contre les syndicats, contre les commissions scolaires qui veulent abolir quand tout ça sera fait. Alors, de prendre des grandes réformes comme ça, de penser de le faire envers et contre tous, je me dis là qu'on est peut-être un peu dans la pensée magique. Je me dis, ben, ils ont de grands défis, puis il y aura assurément des épreuves. Puis...
Dans le fond, ce que j'entends, c'est que peut-être que c'était nécessaire, mais peut-être que l'annonce, elle est prématurée. Ils ont mal évalué actuellement les tenants et les aboutissants.
Ben, ma lecture à moi, c'est ça, Robert, parce que c'est une grande réforme, ça prend du temps, il faut avoir des partenaires, des collaborateurs, des amis. Et là, eux autres sont en train, en bousculant comme ça, sont en train de se mettre tous ces gens-là à dos.
C'est à l'usage qu'on va voir comment tout ça va se déployer.
Mais l'objectif, moi, je pense qu'il est loin. L'objectif et le besoin.
Gabriel, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour,
Robert.
Bonjour Gabriel.
Bonjour, Madame Boulay. Tantôt, vous avez dit que vous avez piloté le projet de photoradar au Québec. Est-ce que c'est exact?
Oui. Donc, le premier, au départ, par contre, là, ça fait plusieurs années. Oui.
OK. Est-ce que vous êtes d'accord que les photoradars sont une solution au problème d'accident au Québec?
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y en a pas une seule solution. Quand on veut réduire le nombre de décès sur les routes du Québec, il y a une panoplie de choses qu'il faut mettre en place. Et les photoradars étaient un outil parmi tant d'autres qui avaient fait des preuves ailleurs. Partout où ça avait été mis en place, en Europe, il y avait une diminution importante du nombre de décès sur le réseau routier. Alors, ça a été jumelé à l'alcool au volant, au récidivisme, alors à une panoplie, le téléphone au volant, la téléphonie cellulaire.
Les grandes limites de vitesse dépassées.
Les grandes limites de vitesse dépassées dans les zones scolaires. Alors, c'est une panoplie de choses et on a corrigé beaucoup aussi le réseau routier où il y avait des endroits où c'était plus accidentogène. Donc, on a mis en œuvre tout ça, mais il n'y a pas une seule de ces choses-là qui peut faire qu'il y a des solutions miracles.
C'est un ensemble
d'outils qu'on peut mettre en place qui font en sorte de responsabiliser davantage les conducteurs.
C'est un peu comme Vision Zéro à Trois-Rivières, c'est ça. Vision Zéro, on a beaucoup parlé du 40 km à l'heure, mais ce n'est pas que ça.
Non, c'est pas que ça. Et l'objectif qui justifie c'est justement, on veut qu'il y ait moins d'accidents, on veut protéger nos jeunes dans les quartiers résidentiels, à proximité des écoles. Alors, c'est tout ça, là, qui est l'objectif. Il y a un objectif qui est correct derrière tout ça. Maintenant, c'est dans l'application. Il y a des choses qui vont recevoir une acceptabilité sociale plus facilement, plus rapidement. Puis d'autres choses qui ont besoin, d'autres avenues qui ont besoin d'être davantage réfléchies, maturées par la population. Et que les gens sont peut-être pas prêts à faire ce genre de pas-là vers l'avant.
Maintenant, moi, j'ai assisté à un congrès d'ingénierie il y a quelques mois. Et dans ce congrès, on nous a dit que les photoradars avaient pour seul but de changer... Non, c'est pas comme ça que ça a été amené. C'est juste que les photoradars changeaient le comportement des automobilistes à l'endroit même du photoradar et non ailleurs. Donc, un photoradar coûte entre 50 à 100 000 $ d'installation et la machine telle quelle. Mais même si ça change juste le comportement au photoradar et non ailleurs, quelle est l'efficacité du photoradar en tant que tel?
Ben, ça change le comportement du conducteur et les photoradars sont placés à des endroits accidentogènes. Alors, dès le départ, il y en avait 15 et on a ciblé les endroits, les routes où il y avait le plus d'accidents au Québec. Alors oui, ça change le comportement, mais on les place à des endroits stratégiques. On les place pas là où il y a pas de problème de comportement. Alors, c'est placé quand les gens ont tendance à dépasser largement la vitesse autorisée, quand c'est à des lumières, quand c'est conflictuel.
Julie, c'est un petit peu quand même.
C'était placé...
Tu l'as dit tantôt, mais c'est un petit peu des trapatiquettes, un petit peu quand même.
Oui.
Je sais que les gens sont avisés d'avance. D'un fois, t'es dans l'une, d'un fois, t'es dans tes pensées, tu te concentres sur la route devant toi, t'es dans le trafic, tu vois pas trop la pancarte sur le bord de la route, puis là, tu te fais prendre...
Mais Robert, puis je dirais pas que, parce que le trap étiquette, là, ça a toujours été là aussi, puis les gens toujours, je dis pas qu'on ramasse pas d'argent avec ça, je dis juste que l'objectif premier, c'était de changer, comme monsieur le dit, là, c'était de changer le comportement des conducteurs à des endroits stratégiques où on avait, selon les bilans, recensé beaucoup d'accidents, parce qu'il y avait des zones conflictuelles sur le réseau routier. Mais je comprends,
mais,
là.
Mais si c'est le cas, là, le pilote qui déjà fait combien d'années? 8 ans, 7 ans, 8 ans? Que c'est mis en place, ça, ce pilote-là.
Mais il a changé,
si ça
Robert.
Fonctionne tant que ça, pourquoi ils ne l'ont pas déployé à l'ensemble
du
Québec?
C'est déployé dans beaucoup. Je ne sais pas comment aujourd'hui il y en a sur le réseau, mais on est bien, bien loin des 15 de départ, là. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup de déployés, notamment sur la grande ville de Montréal, et ça s'est avéré utile pour changer. Monsieur a tellement raison, changer les comportements des usagers, des conducteurs, mais on les place à des endroits qui sont très précis,
oui, mais
qui ont été
chez
identifiés.
Ce que je veux dire, Julie, c'est qu'il y en a chez nous aussi des endroits comme ça. Oui. Si c'est bon que ça, pourquoi ils ne mettent pas partout au Québec?
Là, Robert, je suis plus là, mais moi, je pense que oui, ça pourrait être étendu en autant qu'une volonté réelle des municipalités.
Oui, je peux répondre à Robert, oui. Parce que dans le congrès, justement, l'idée de l'ingénieur qui nous présentait ce projet-là, c'était de nous vendre l'idée des photoradars, alors que la plupart dans la salle ont été réticents, justement parce que le comportement n'est pas changé dans les habitudes, c'est juste ponctuel. Alors, pourquoi aller dépenser de 50 à 100 000 $ par unité de photoradar pour avoir un changement de comportement ponctuel qui n'est pas dans l'habitude quotidienne des gens? Donc, c'est quoi? Est-ce qu'on va commencer à mettre des photoradars à tous les deux pouces parce qu'il faut s'assurer que les gens maintiennent ce comportement-là? Alors, ça n'a pas été retenu par la plupart des gens qui étaient là en ingénierie. Et quand j'ai mentionné le cas de l'Allemagne, qui, eux, ont des statistiques très intéressantes. Très peu de morts par million, 39 morts par million en 2016 ou 2017. C'est très faible. Et eux laissent l'opportunité aux gens de rouler à la vitesse qu'ils veulent dans les autobahnes. Donc, moi, ma question, c'était plutôt comme comment on peut expliquer que l'Allemagne n'a pas besoin de photoradars, ou s'il y en a, il ne doit pas en avoir beaucoup, et que nous, on doit commencer à mettre ça mur à mur au Québec. Je la comprends pas.
Ben, quand vous dites c'est ponctuel, là, évidemment que c'est ponctuel, que ça change le comportement, mais si c'est mis à des endroits où il y a beaucoup d'accidents, ben, je pense que le ponctuel fait la job, là. Alors, on mettra pas ça là où il n'y a pas de conflit d'usagers, puis où il n'y a pas un taux d'accidentogène élevé. Alors, ça sera pas mis là, les photoradars, faut comprendre ça aussi. Puis l'autre élément, là, l'Allemagne, son réseau routier se compare pas. Sur les autoroutes, là, ils roulent à 130, à 140, pas 150 km, là. Ici, là, je crois pas que personne est là, ou en tout cas, il y a pas un gouvernement qui va autoriser qu'on passe de 120 sur les, de 110, ou 100, là, c'est 100, mais on permet jusqu'à 120, mais je crois pas qu'il y a un gouvernement qui va autoriser qu'on roule comme en Allemagne, ils le font. Et notre réseau routier, sa configuration ne le permettrait pas, ça se compare pas non plus à l'Allemagne.
Non, je vais vous dire que
quand je vais à Trois-Rivières.
Oui.
Quand je vais à Trois-Rivières, je vous annonce que je roule minimum à 140 km/h. Et que je me fais dépasser.
Ben, c'est parce qu'il faudrait qu'il y ait plus de policiers. Là, là-dessus, je vous rejoins.
Non, madame.
Là-dessus, je vous rejoins.
C'est une question qu'il y ait plus... de jugement, madame.
À bientôt.
Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de policiers à ce moment-là.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Parce que se faire dépasser à 140, là, ça commence à rouler pas mal vite. Roules-tu? T'es-tu une fille qui a le pied
pesant?
Moi,
je vais vous l'avouer, Robert, plus jeune, je roulais assez vite. Mais depuis un certain temps, depuis plusieurs années, là, je roule sagement. Je roule à 118, puis à la limite, là, je mets mon cruise, puis je roule à 118, puis je m'en tiens à ça, puis c'est correct. Mais je me suis assagie avec le temps.
C'est vrai, hein?
Oui, je me suis assagie. Puis...
Ça a ça de bon, le temps vieillir.
Ouais, puis tu sais, hein? Je dis toujours à mes enfants, quand ils conduisent, je sais qu'ils sont jeunes, puis qu'ils aiment aller vite, mais je dis tout le temps, regarde, quand même, t'arriverais 5 minutes plus tard, si un jour, il t'arrivait quelque chose à toi ou à ta conjointe, imagine la peine qu'on aurait, puis à ce moment-là, pense à moi 2 minutes, puis ralentis, lève le pied sur la pédale.
Il y a la vitesse, puis les grands dérangements à l'intérieur d'un véhicule, ouais. Là. Hein,
les distractions. Oui, tout à fait. Ben, le manger, oui, les textos, les cellulaires.
Les textos.
Et alors, c'est encore très, très présent. Ah ben, ou même les filles qui se mettent du rouge à lèvres, qui se mettent du mascara en regardant le miroir, puis en pensant qu'ils ont un œil sur la route en même temps, là.
Oui.
Ben, écoute, là.
On va s'arrêter?
Oui, tout à fait.
On va s'arrêter. On va ralentir un peu. On va partir de 120. On va réduire ça à quoi? 50 km à l'heure?
C'est trop. Non, ça, c'est pas assez vite.
Hein. Ben là, mais ça dépend où tu te trouves. On est dans un quartier, là. Donc,
oui.
on va aller faire notre arrêt stop.
D'accord.
Ça veut dire que c'est la pause commerciale. On fait notre stop. Et au retour, on va vous parler, entre autres, d'SNC-Lavalin. Il y a une ministre qui, actuellement, est au cœur d'une controverse. On va entendre ce que Julie a à dire là-dessus dans 2 minutes.
Demain, au 106.9 Mauricie, à 9h30, Doc Mailloux et José, avec Pierre Mailloux et José Arsenault. 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus.
La Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières invite sa communauté d'affaires à son grand déjeuner d'affaires Cogeco le mercredi 27 février, 7h15, au Delta Trois-Rivières. Au cours de ce déjeuner, assistez à la conférence « Être entrepreneur, comment y arriver? » de Mme Sylvie Deslauriers, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. 30$ pour les membres et 40$ pour les non-membres. Mercredi 27 février, 7h15 au Delta Trois-Rivières, soyez présents pour ce grand déjeuner d'affaires Cogeco. Réservez votre place au cci3r.com.
Cette semaine, au Méga-Centre d'occasion, le prix du gros, c'est la grande liquidation de nos VUS 4x4. Obtenez un boni supplémentaire de 2000$ sur votre échange à l'achat d'un 4x4 en stock. Le Méga-Centre d'occasion, le prix du gros. On est toujours ouvert 7 jours sur 7.
Chez Rôtisserie Fusée, jusqu'au 21 février, on aime ça à deux. Pour seulement 14,02$, obtenez un repas poitrine et un repas cuisse de notre savoureux poulet cuit sur la broche. Oui, seulement 14,02$. C'est vrai que c'est toujours meilleur à deux. Détails à rotisseriefusée.com.
Pour la maison comme pour le travail, le nouveau tracteur série IMAX 20S de Mahindra répond à tous vos besoins. Le seul tracteur de sa catégorie avec une cabine installée en usine. IMAX 20S, le plus compétitif sur le marché. Mahindra, disponible à votre centre agricole Nicolas Yamaska.
Les Aigles de Trois-Rivières, en collaboration avec la Fondation Le Prix du Gros, s'associent pour une bonne cause et vous invitent à la première classique hivernale Grand Chelem. Un tournoi de balles de neige sur neige, mais surtout une grande fête familiale en plein air. Patinoire, glissoire, sentier pédestre, fat bike et piste de ski de fond. Grand Chelem lui-même vous attend le samedi 23 février à l'école Vision. Tous les profits de la journée iront à la Fondation Le Prix du Gros, dans le but d'offrir un abonnement de saison à tous les jeunes joueurs de baseball de la Mauricie.
J'ai reçu un appel d'une entreprise qui s'appelle Numéris. C'est probablement un autre sondage. Attends, tu dois prendre cet appel. T'aimes écouter la radio ou regarder la télévision, n'est-ce pas?
Ben oui!
Alors tu peux ainsi influencer la programmation, puisque c'est Numéris qui recueille toute cette information.
Vraiment?
Oui, c'est Numéris. Prends cet appel.
D'accord, je le ferai.
Ayez-vous aussi votre mot à dire. Ce message est présenté par Radio Connexion. Apprenez-en plus en vous rendant sur le site numéris.ca et contribuez au développement du contenu que vous écoutez ou regardez.
C'est la saison de l'hibernation. C'est le temps de s'installer confortablement pour ne rien manquer, de s'emmitoufler et de regarder ses séries télé préférées, de s'habiller en mou et de laisser le Wi-Fi s'occuper de tout. Facile de relaxer avec les vitesses ultra-rapides de Cogeco. Obtenez l'Internet ultra-fibre 60 illimité et le forfait Télémon Mix 20 pour seulement $95 par mois pendant 12 mois. Ne passez pas à côté de cette offre. Passez en mode épatant avec Cogeco. Des conditions s'appliquent. Visitez cogeco.ca/duo-ultra-rapide.
Au départ, j'étais anxieuse à l'idée de parler de mes problèmes d'endettement. J'ai vite senti que je pouvais faire confiance à l'équipe de Roy Métivier Roberge. Merci de votre soutien et de votre efficacité dans ces moments difficiles.
Ici Sylvie Ménard. Venez me voir, je peux vous aider à redresser vos finances et même éviter la faillite. Je trouverai une solution adaptée à vos besoins, car chez Roy Métivier Roberge, c'est vous avant tout.
Visitez rmrsyndic.com. Une publicité de Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité.
Cette semaine, au Méga-Centre d'occasion, le prix du gros, c'est la méga-liquidation sur tous nos camions en stock. Tous nos prix sont réduits. Venez voir le plus gros inventaire de camions au Québec. Le Méga-Centre d'occasion, le prix du gros. On est toujours ouvert 7 jours sur 7.
Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Robert Pilote.
Bon appétit, midi plus. Midi Plus, c'est le lundi et jeudi avec Julie Boulay qui vient commenter l'actualité. Et là, je vais te demander maintenant, Julie, de te mettre dans la peau de cette fille-là.
Oui. Okay?
Elle est, Mme Ribault,
oui,
nommée ministre de la Justice. S'il y a un poste au Conseil des ministres qui est prestigieux, ben
celui-là. Tout à fait.
Hein? Parce que qu'est-ce que ça fait
c'est
un gouvernement?
C'est parmi les 3-4 ministères là, les plus prestigieux.
Les plus prestigieux, oui. Mais puis moi, je te dirais que c'est le plus important parce que un Parlement, ça fait des lois. Hein? Ça légifère, ça fait des lois
pour... C'est pas toujours du monde qu'on voit beaucoup, par contre, Robert. C'est pas toujours des gens qui sont... C'est pas des têtes d'affiche, là, nécessairement, qui sont toujours dans les journaux pas à la télé. Par contre, ils ont des dossiers très stratégiques pour un gouvernement.
Ce que je veux dire, c'est que tout est légal.
Oui.
Hein, dans nos vies, tout est légal. Puis vous autres,
ben, c'est l'avocat du gouvernement.
C'est ça. Là, la fille, là, pour des raisons obscures, lors d'un remaniement ministériel, elle est dégommée. On l'envoie avec les anciens combattants.
Toute une démotion.
C'est une dégringolade.
Tout à fait.
C'est
En haut puis en bas. C'est ça.
Puis finalement, là, on lui demande peut-être, éventuellement, de préciser les raisons pour lesquelles elle a été dégommée. Elle doit avoir une petite idée de ça, elle.
Par contre, elle est liée par le secret professionnel.
Bon. Intervient l'histoire de SNC-Lavalin.
Oui.
Est-ce que SNC-Lavalin, il y a des pressions qui ont été faites pour pas qu'il y ait de procès criminel et qu'SNC-Lavalin puisse pas être capable de bêter sur des contrats publics? Ça veut dire des milliers d'emplois qui sont en jeu.
Okay? En fait, on appelle ça un accord de réparation qui est légal, qui a été mis dans le dernier budget là en mars 2018 par le gouvernement Trudeau. Sauf que là, personne ne savait que ça existait, mais là, aujourd'hui, là, tout le monde connaît okay. ça. Là.
Tu payes une grosse amende.
Oui.
T'as une tape sur les
doigts.
Tu
reconnais ta culpabilité.
Tu reconnais ta
culpabilité. En tant que personne et oui. non en tant qu'entreprise.
Il n'y a pas grand monde. Des bandits à cravate, là. Il n'y a pas grand monde qui est puni là-dedans. Puis finalement, on sauve des emplois.
Oui.
Le but de l'opération, c'est de sauver les emplois.
Tout à fait.
Est-ce que Justin Trudeau est intervenu pour que cette fille-là puisse s'organiser pour que SNC-Lavalin survive à la tempête?
Ben ça, c'est la question que tout le monde se pose, Robert, puis c'est là-dessus que tout le monde crie pour avoir une réponse, que ce soit l'opposition, les conservateurs, la NPD. Alors, tout le monde veut une réponse à ça. L'opposition a fait ses choux gras. Mais ce qui est clair, c'est que ça embête vraiment beaucoup le gouvernement libéral, le gouvernement de M. Trudeau. Et on n'a qu'à le voir, là, à chaque fois qu'on lui pose une question. La semaine passée, ça ne siégeait pas là, au Parlement, là, à la Chambre des communes. Alors, rien que de le voir d'une journée à l'autre, là, on le voyait embêté, sa réponse n'était pas claire, c'était pas limpide, ça changeait d'une journée à l'autre. Au début, il avait confiance en elle. La preuve, c'est qu'elle était au Conseil des ministres. Le lendemain, elle démissionnait. Donc là, lui, son explication n'est plus. Après ça, il a dit c'est la faute au ministre président du Conseil du Trésor, Scott Bryson, qui a démissionné. N'eût été de M. Bryson qui a démissionné, j'aurais pas fait de remaniement. Elle serait toujours ministre de la Justice. Alors, on voit là qu'il fait du patinage, puis c'est même pas du patinage de fantaisie, là. Alors, on le voit là qu'il est empêtré là-dedans. Et là, il retourne à la Chambre des communes là, cette semaine, ça siège. Donc, c'est clair que l'opposition ne laissera pas tomber ce morceau-là.
Est-il
parce que
intervenu?
C'est une bombe.
Est-il intervenu? Du temps de Jean Charest, qui a été ton patron pendant quelques années, Jean Charest a intervenu auprès d'un juge. Il était ministre du sport à l'époque.
Oui.
Il était dégommé.
Il était dégommé, tout à fait.
Il était dégommé.
Oui.
Est-ce que c'est une intervention qui ressemble un peu à ce que Jean Charest avait fait à l'époque?
Je peux pas te dire parce que...
Non, mais auprès d'un ministre.
Mais c'est ce qu'on sait pas, Robert. Est-ce que lui est intervenu personnellement? Est-ce que ses proches sont intervenus? Et cette intervention-là, quelle nature elle a pris, cette intervention-là? Est-ce qu'on a voulu lui dicter sa façon de faire? Est-ce qu'on a voulu lui imposer quelque chose? Ou on lui a juste demandé ce qu'elle voulait faire avec ça? C'était quoi ses choix à elle? C'est là qu'on sait pas. Tout est dans la subtilité du type d'intervention qu'on a pu faire auprès de Mme Olson.
Doit-elle le dire en public?
Bien, là, elle a embauché un avocat à la retraite.
Un ancien
juge,
de la Cour suprême.
Tout à fait. Ouais. Quelqu'un d'une grande notoriété pour lui dire ce qui lui est permis de dire puis ce qui ne lui est pas permis de dire, considérant qu'elle est liée par le secret professionnel. Alors ça, on va voir, là, mais comme je vous dis, là, c'est vraiment, là, on pèle des nuages. On ne sait pas trop où on s'en va avec ça. Et même ce matin, le Sénat disait, bien, nous, là, on serait intéressés à mener une espèce de commission d'enquête et à entendre, parce qu'on se rappellera qu'il y a une commission de la Chambre des communes qui a dit que l'opposition a demandé pour entendre plusieurs personnes, dont Mme Jody Wilson. Mais là, eux ont dit non, on n'entendra pas 9 personnes, on va en entendre 3. Puis ils les ont sélectionnés en fonction de ceux qui, comme l'actuel ministre de la Justice, M. Lametti. Donc, on les ont sélectionnés en sachant pertinemment que ce ne sont pas ces personnes-là qu'on souhaite entendre, puis que si on entend seulement que ces 3-là, on n'aura pas
c'est
la...
Pas bon.
On On n'aura pas la conclusion.
T'es pas bon
on
pour Justin.
On sera pas éclairé. On sera pas éclairé si on entend juste ces trois-là.
Va-tu hanter sa campagne
électorale? Moi, je pense que si on n'a pas plus de transparence puis qu'on met pas un couvercle sur la marmite rapidement dans ce dossier-là, ça va le suivre, ça va traîner et ça va lui nuire assurément dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
Point à la ligne. Un autre sujet.
Oui. La jeune fille là, qui veut revenir chez elle.
Y a la jeune fille, mais tous ces voyages que l'on fait pour aller aider notre prochain à Haïti, à Cuba ou ailleurs dans le monde entier, parce qu'on a le cœur sur la main. J'ai l'impression qu'à Haïti, on va faire des voyages humanitaires depuis des temps immémoriaux, puis qu'on règle jamais rien finalement.
En tout cas, ils sont toujours dans la dèche. Là. Il y a toujours, puis c'est pas de leur faute nécessairement, mais il y a toujours quelque chose. C'est des guerres comme des guerres civiles, mais ils ont aussi beaucoup d'intempéries, des tsunamis, puis des tremblements de terre, puis des trucs comme ça là qui viennent les affliger. Là, c'est un peuple qui est vraiment attaqué
souvent,
de tous les fronts.
Je dis, les gouvernements les aideraient s'il y avait du pétrole, s'il y avait des diamants. S'il y avait des ressources naturelles importantes, si au plan géostratégique, politique, ce serait important d'être là, on les aiderait sûrement. Puis là, c'est
probablement,
comme si...
t'as raison là-dessus.
C'est ça, oui. On est cheap en tabarnouche.
Écoute, c'est un peuple, moi, je le dis, c'est triste, là. C'est triste parce qu'ils sont toujours... Il y a toujours quelque chose qui les afflige. Toujours quelque chose, Robert. Et de grands drames humains. On a l'impression qu'ils s'en sortent jamais. Ils changent de gouvernement, puis il se passe des choses. Après ça, je dirais pas des dictatures, mais pas loin. Alors, le peuple se soulève. Oui. Alors, c'est toujours, toujours difficile. Et quand on les regarde, moi, je trouve vraiment que ça fait pitié, là. Je me demande comment ils vont faire pour s'en sortir, puis comment on peut être là en soutien, d'envoyer des gens, c'est sûrement bien, je pense
Pourquoi
qu'ils ont besoin.
Pourquoi on n'entend pas les grands ténors de la communauté haïtienne, québécoise et internationale? Comment s'appelle de Thetford, là, qui était la... c'est parce que j'ai un blanc de mémoire, qui était la représentante de la reine au Canada, là, l'ancienne journaliste.
Oui.
Comment elle s'appelle, Serge? Michaël Jean, bon.
C'est ça.
Pourquoi elle se lève pas debout en criant au lieu de faire des tournées internationales en se plaignant qu'il n'y a pas d'eau chaude dans son appartement à Paris.
Elle était à la tête de la francophonie. Haïti, c'est un peuple francophone. Là.
En plus, elle a un rôle important, elle est articulée. Pourquoi ils n'entendent pas la Ferrière, plus que ça, s'élever et dire « assez, c'est assez ».
Ben, je pense qu'ils le font à leur manière, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ça que ça prend, Robert? Ou moi, je pense que peut-être des organismes à vocation internationale, comme l'ONU, est-ce qu'on devrait, je ne sais pas...
Les prendre en tutelle,
c'est
je sais
ça,
pas.
Quelque chose comme ça, les parrainer, tutelle, ouais. Je ne le sais pas, mais de toute évidence, ce peuple-là est coup après coup, ils ont un destin qui est tragique et ils sont toujours, toujours mal pris.
Abby, en terminant, hey, on pensait que c'était main dans la main, qu'on était pour rentrer là au printemps, tu sais, quand les petits oiseaux qui rentrent dans la petite cabane pour venir préparer la nouvelle nichée. Là. Non, c'est finalement divorce consommé.
Ouais.
Abby, on a arrêté de négocier vendredi passé. On comprend mal ce qui s'est passé. Ça sent pas bon?
Ben, je sais pas comment on doit traduire ça, mais chose certaine, toutes les négociations qui avaient repris, le syndicat avait cancellé sa rencontre avec ses membres. On s'était tous gonflés d'espoir. On était tous contents, puis on se disait, ça envoie des messages positifs. Enfin, ils sont assis ensemble, puis ils se parlent. Puis ça veut dire qu'une volonté concrète, réelle, puis ça se traduit par des négociations qui prennent forme. Alors, on était tous très heureux de ça, puis tout d'un coup, notre ballon s'est dégonflé assez vite, Dieu merci. Hein. Et je le sais pas, mais moi, je pense que c'est pas un bon signal. Est-ce que c'est la fermeture de Sural, Robert? Est-ce que, parce qu'on sait que ABI vendait son aluminium liquide à Sural, qui avait deux entreprises, une à Bécancour et une à Victoriaville. Donc, sur trois entreprises à qui ils fournissaient, ils vendaient leur aluminium liquide, deux sur trois ont fermé, ont terminé leur opération. Alors, est-ce que, bon, la lecture se faisait, j'écoutais le professeur qui est venu ici, là, qui faisait une lecture à double sens, là. Ben, maintenant, ils vont continuer à produire, puis puis ils vont avoir besoin de davantage de gens sur place pour transformer cet aluminium liquide qu'ils peuvent plus vendre à l'extérieur à Sural? Ou encore, est-ce qu'ils vont dire, là, le contexte est pas bon, le prix de l'aluminium sur le marché mondial est pas bon, il y a des pénalités importantes à vendre nos produits aux États-Unis. Ça, c'est Alcoa davantage. Mais Rio Tinto, Alcan, moi, j'ai parlé avec des gens de Rio Tinto, disaient que ça leur coûtait une fortune à chaque mois pour envoyer de l'aluminium aux États-Unis. Alors, il y a un contexte qui est vraiment particulier. Alors, j'espère que c'est pas la fin. J'espère que c'est qu'ils vont continuer puis qu'il y a une volonté réelle d'aller de l'avant.
On a négocié des tarifs préférentiels avec les grandes alumineries, dont celle-là.
Oui.
Le gouvernement du Québec, à un moment donné, pourrait se dire « nous allons intervenir ». On nous dit « moi, c'est un conflit qui est privé ». Privé, oui, oui puis non. Est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un au gouvernement aujourd'hui qu'il a la responsabilité d'intervenir et de dire « ben écoutez, si vous ne voulez pas régler, nous autres, on va être obligés de revoir les ententes qu'on a avec vous pour ce qui est de tarifs préférentiels d'électricité ». On peut-tu aller jusque-là?
La marge de manœuvre, là, dans ce cas-ci, parce que le contrat y est signé, puis je pense que les tarifs préférentiels, c'est ce qu'en 2025 ou 2029, là, Stéphane le savait l'autre fois, mais le contrat, il est signé, comme il est là, la marge de manœuvre du gouvernement pour intervenir, elle est mince. Elle est mince, mais ça nous donne une leçon que dans l'avenir, quand on consentira des taux préférentiels d'électricité à des grandes entreprises, faudra prévoir que s'il y a ce genre d'événements-là qui se produisent, des lock-outs où les travailleurs sont sortis puis ils n'ont pas leur salaire, comment le gouvernement pourra avoir une mainprise, là, un pouvoir pour renégocier ou pour s'asseoir avec l'entreprise puis dire, oh, ben écoutez, là, on vous a donné l'électricité, mais dans ces conditions-là, ça répond plus aux attentes et aux objectifs du gouvernement.
Je te souhaite une belle semaine d'actualité, Julie.
La même chose pour toi, Robert, et à tous tes invités. Et encore merci de me laisser une partie de ton micro, mais de l'émission pour m'exprimer.
Ben, de toute façon, moi, je peux pas parler tout le temps, tout seul. Le monde se tannerait. D'abord, là, c'est pour ça
que... Ça me fait toujours plaisir.
Je suis que l'entremetteur. Hein. J'invite les gens à ce micro, à cette antenne, puis j'ose croire que les gens vont se l'accaparer, soit les auditeurs ou en tout cas les commentateurs de ta trempe.
Puis les gens qui ont des opinions, c'est intéressant.
Ben
qui téléphonent,
ben
qui s'expriment, c'est là pour ça.
Vous avez entendu Julie Boulay le lundi et le jeudi sur nos ondes, à la pause d'actualité Marc-André Pelletier. Merci d'être là. Vous avez des choses à dire. 376-1069. Hey, on va aller rejoindre Mathieu. Mathieu Godreau, tu sais pas ce qu'il est? Il est à Paris actuellement. Il est débarqué là. Il est allé, je sais pas dans quelle ville. On va lui parler des gilets jaunes après les nouvelles.